Auditeurs de Radio Albigès, bonjour. C'est le groupe Amnesty International d'Albi qui vous présente son émission mensuelle « Les chroniques amnestiennes », émission sur les droits humains dans le monde. Aujourd'hui, Jean-Marie et Jean-Michel animeront l'émission. Bonjour.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
Voilà. Alors, nous sommes heureux, chers auditeurs de Radio Albigès, de vous retrouver après de longs mois de silence liés au confinement sanitaire. Nous sommes également satisfaits de nous retrouver dans les studios d'une radio qui, après un long combat, a retrouvé une stabilité et ses missions premières. Nous commencerons cette émission en rendant hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie, sauvagement assassiné pour avoir accompli sa mission d'éducation. Le 10 octobre, chaque année, est la journée pour l'abolition de la peine de mort. Nous ferons le point sur l'année 2019. Les chiffres d'exécution sont les plus bas de la décennie, mais c'est un long combat qui reste à mener. Nous souhaitons que la France intervienne lors du G20 qui se tiendra en Arabie Saoudite pour exiger la libération de tous les défenseurs des droits humains et la mise en œuvre de véritables réformes en faveur des droits humains dans le royaume. Une pétition vous sera présentée pour signature massive. Après une pause musicale, nous vous présenterons les conclusions essentielles de l'enquête menée par Amnesty International sur la réponse des autorités aux mouvements sociaux recoupés par des témoignages. Le constat est inquiétant. Nous souhaitons attirer votre attention sur le cas du journaliste algérien Khaled Drareni, condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir couvert les manifestations du Irak. Enfin, nous terminerons notre émission par une communication sur l'utilisation des bombes à munitions sur Stepanakert dans le conflit du Haut-Karabakh entre Azerbaïdjan et Arménie, mais aussi par 2 bonnes nouvelles.
Jean-Michel, nous ne pouvions pas démarrer cette émission sans avoir une pensée et rendre un hommage à cet enseignant qui a été assassiné.
Tout à fait. Alors je vais simplement lire le communiqué qu'a fait Amnesty International suite à cet événement tragique et horrible. Un hommage national, on le sait, a été rendu à Samuel Paty, professeur d'histoire et géographie, sauvagement assassiné pour avoir accompli sa mission d'éducation. Amnesty International exprime sa totale solidarité et sa profonde compassion à sa famille, à ses proches, à ses collègues et à ses élèves, et condamne avec la plus grande force ce crime insupportable. Samuel Paty est mort pour avoir voulu enseigner à ses élèves l'esprit critique, la diversité de points de vue et les notions essentielles de liberté d'opinion, d'expression et de conscience sans lesquelles il n'y a pas d'état de droit. En ciblant cet enseignant, son assassin a voulu s'attaquer à la liberté d'expression, pierre angulaire de notre société. Nous devons défendre sans relâche cette liberté. Elle autorise la critique d'une opinion, d'un courant de pensée, d'une religion, y compris à travers le blasphème. Elle implique donc d'accepter d'être choqué, perturbé, voire offensé. Enseigner ces exigences est fondamental et cette tragédie doit renforcer notre détermination à protéger la liberté d'expression sous toutes ses formes. Selon le droit international et plus particulièrement l'article 20, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'une des limites essentielles à cette liberté est, ouvre les guillemets, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. C'est à l'État de garantir à tous et à tous, toutes, pardon, la possibilité de jouir de ces libertés sans crainte. Cet acte atroce a été commis par un criminel animé par une idéologie mortifère. Les éventuels complices devront répondre de leurs actes et être jugés dans le respect du droit. Cette attaque nous met à nouveau à l'épreuve. Nous devons résister à la tentation de la division et de l'hostilité qui ferait le jeu de ceux qui commettent ou inspirent de tels actes. Nous devons plus que jamais garder comme repère nos valeurs et principes. Ceux de l'état de droit, de la justice, de la liberté et de l'égalité de tous et de toutes. C'est la seule manière de répondre à la haine, à la violence et à la discrimination. Dans cette période d'instabilité et d'inquiétude, le respect des droits humains doit plus que jamais rester notre boussole, même face aux attaques les plus odieuses. En conclusion, on ne combat pas la haine par la haine, on ne combat pas l'intolérance par plus d'intolérance, on en triomphe en garantissant le respect des droits de tous et de toutes. Les droits humains nous protègent, protégeons-les. Alors Jean-Marie, traditionnellement le 10 octobre est le jour, je dirais, anniversaire de la lutte contre la peine de mort, pour l'abolition de la peine de mort. Donc comme tous les ans, Amnesty International publie une statistique, une évolution de cette abolition. Donc je te laisse la parole pour commenter un petit peu les résultats.
Oui, alors Amnesty a recensé pour cette année 2019, dans le monde, 657 exécutions. Soit une diminution de 5% par rapport à 2018. Ces données confirment une tendance mondiale qui a vu le recours à la peine capitale diminuer chaque année depuis l'important pic de 1634 exécutions qui avait été recensé en 2015.
Est-ce à dire, Jean-Marie, que l'abolition mondiale est à portée de la main ?
Alors, on va faire le tour un peu rapidement de quelques situations où effectivement des choses évoluent. Pour la première fois, donc depuis 2011, la région Asie et Pacifique a enregistré une diminution du nombre de pays qui procèdent à des exécutions. Bon, ce nombre s'élevait seulement à 7 pour l'année 2019. Le nombre de personnes exécutées au Japon et à Singapour a diminué considérablement. Pour la première fois depuis 2010, aucune exécution n'a été recensée en Afghanistan. Le Kazakhstan, la Fédération de Russie, le Tadjikistan, la Malaisie et le Gambie ont continué d'observer des moratoires officiels sur les exécutions. En outre, plusieurs pays ont pris des mesures positives en vue de mettre fin au recours à la peine capitale. Donc on voit bien que les choses bougent. Alors en Guinée, en Afrique par exemple, le président de la Guinée équatoriale a notamment annoncé en avril que son gouvernement présenterait une loi visant à abolir la peine de mort. Donc on est là sur des démarches encore plus importantes. Des avancées qui pourraient mener à l'abolition de la peine de mort ont également été constatées au Kenya, en Gambie, en République centrafricaine et au Zimbabwe. La Barbade a également supprimé l'imposition obligatoire de la peine de mort de sa constitution. Mmh. Et enfin, aux États-Unis, le gouverneur de la Californie, État où le nombre de prisonniers sous le coup d'une sentence capitale est le plus élevé, a instauré un moratoire sur les exécutions, donc ce qui est absolument nouveau.
Oui, il y a une cinquantaine, je crois, en cours.
Et le New Hampshire est devenu le 21e État à abolir la peine de mort pour tous les crimes. Donc on est presque à 5, un peu plus de 50% presque des États des États-Unis.
Mais enfin, il y a un long combat qui reste à mener, parce que 5% c'est bien, mais il y a du chemin à faire. Et puis la Chine.
Oui, alors faut noter aussi, tout ne va pas dans le même sens. Il y a la tentative des Philippines de rétablir la peine de mort pour les crimes odieux liés aux stupéfiants et au pillage. Celle du Sri Lanka, qui est de reprendre les exécutions pour la première fois en plus de 40 ans, qui ont entaché le progrès vers l'abolition mondiale de la peine capitale. Le gouvernement fédéral américain a également menacé de reprendre les exécutions après n'en avoir mené aucune pendant près de 20 ans. Mmh. Donc malgré cette baisse mondiale au niveau des exécutions, seuls 20 pays étaient responsables de toutes les exécutions recensées dans le monde en 2019. Alors les 5 pays manquent, qui concourt malheureusement en tête de ces exécutions. Et en premier lieu, la Chine, bien évidemment. Comme chaque année, on pense que la Chine, on ne dispose pas de chiffres précis puisque ces données sont classées secret d'État. Mais on estime qu'il y a eu plusieurs milliers d'exécutions qui ont probablement eu lieu en Chine. Donc le chiffre qu'on donne de 657 exécutions ne tient pas compte de celles-ci. En Iran, puisque les 5 pays principaux, donc Chine, Iran, Arabie Saoudite, Irak et Égypte, je vous donne après le détail. Donc Iran, il y a eu au moins 250 exécutions, avec une légère diminution. Bon. L'Arabie Saoudite, 184 personnes exécutées. Donc là, par contre, c'est un nombre record en 2019. En Irak, au moins 100 exécutions. Donc là, on a doublé par rapport à 2018. Donc c'est forcément, ça évolue dans le mauvais sens. En Égypte, 32 personnes exécutées, j'allais dire seulement, parce qu'il y en avait eu plus de 400. Voilà, l'année précédente. Donc malgré tout...
Est-ce qu'on peut parler tendance à l'ES,
oui,
quand même?
Oui. Ces résultats sont à nuancer quand même, quoi. J'ai cité les 5 pays les plus importants qui sont encore... qui vont à contresens. Mais il y a un nombre d'exécutions qui est, pour la 4e année consécutive, qui est recensé à la diminution. Donc on en avait 657 en 2019, alors qu'on en avait 690 en 2018. Donc c'est pas une grande diminution. Donc,
on va s'en contenter pour l'instant.
Voilà. Alors j'ai voulu quand même mentionner dans cet état-là ce qui s'est passé en ce sondage effectué en septembre dernier, là, en France.
Oui.
Une étude qui est réalisée chaque année depuis 8 ans par Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne. Et cette année a montré que 55% des Français, donc 11 points depuis l'année dernière en plus, oui, affirment qu'il faudrait rétablir la peine de mort en France. Donc on voit qu'en France, rien n'est gagné compte tenu de ce qu'on voit dans ce sondage. Donc dans Le Monde, même si en 2019, c'est une année porteuse d'espoir, et même si les pays qui continuent à exécuter sont minoritaires, nous devons continuer à nous mobiliser. À la fin de l'année 2019, donc 106 pays avaient aboli la peine de mort pour tous les crimes. Si on y ajoute ceux qui ont aboli ce châtiment dans la pratique et non en droit, ce sont donc 142 pays, les deux tiers pratiquement des pays du globe, qui n'y recourent plus. Donc il y a quand même un tiers qui reste à convaincre. Alors vous trouverez sur le site d'Amnesty.fr la possibilité d'intervenir, puisqu'il y a trois situations à défendre contre la peine de mort. Deux qui se trouvent en Arabie Saoudite et un en Iran.
Voilà. Donc allez sur le site amnesty.fr, vous devez ouvrir ça tout de suite. J'ajouterai quand même, pour être plus optimiste sur un long terme, qu'il y a 50, oui, 60 ans, il y avait une dizaine de pays qui avaient aboli la peine de mort.
Voilà, hein. C'est ça.
Donc il faut être positif. Le plus dur reste à faire, parce qu'on a vraiment affaire à des pays qui sont... Voilà, qu'on ne va pas convaincre comme ça, non, vu les régimes.
Non.
Mais bon, il faut continuer à pousser. Donc on compte sur vous pour signer ces pétitions en ligne pour aider ces gens-là à ne pas être exécuté. Bien, Jean-Marie. L'Arabie Saoudite et le G20, on avait déjà parlé de ça au mois de janvier, ouais, la dernière, ouais, émission qu'on enregistrait, ouais, ici avant le confinement. On avait souligné les ambiguïtés du C20 et d'ailleurs Amnesty avait quitté le C20 parce que c'était une mascarade, d'accord,
ouais.
C'est une préparation, le C20 c'est une préparation pour certains domaines du G20, d'accord,
ouais.
Donc là, le G20 approche, il a lieu le 20 et 21 novembre 2020. En Arabie Saoudite, et bon, nous ne pouvons pas nous contenter de rester les bras ballants là, devant cette situation. Donc Amnesty International a pris l'initiative de lancer une lettre vers le monarque saoudien, notre ami le prince héritier Mohammed Ben Salman, pour lui dire que c'est le moment, hein, de lâcher un petit peu tous les prisonniers d'opinion, tous les prisonniers en général qu'il détient dans ses geôles. Alors je vais te laisser la parole pour lire cette lettre ouverte au président Macron,
voilà,
puisqu'on veut que ce soit lui qui va au G20, qui intervienne,
ouais,
évidemment,
ouais, ouais, ouais,
pour avoir tout son poids. Voyons s'il va dire ce qu'il veut, ce qu'il a dit, quoi. Voilà, donc te laisse la parole, Jean-Marie, lis-nous cette lettre que tout le monde pourra aller, qui est sous forme de pétition en ligne, donc,
tout à fait,
et que tout le monde devra aller signer.
Ouais. Donc l'Arabie Saoudite cette année, c'est elle qui organise ce sommet du G20, où on retrouve les pays, bien sûr, les plus riches et les plus puissants dans le monde. La France y est, puisque c'est quand même une problématique mondiale à laquelle elle participe. Donc il s'agit pour l'Arabie Saoudite d'un événement très important. Les autorités saoudiennes en profitent pour tenter d'améliorer l'image du royaume en investissant des millions de dollars dans une campagne de relations publiques qui vise bien sûr à obtenir le soutien de pays les plus importants, les plus nombreux, et d'entreprises afin de concrétiser ses propres ambitions économiques pour 2030. Alors jusqu'à présent, pour améliorer son image, les autorités saoudiennes ont organisé des concerts, des événements sportifs, hein, dont la presse s'est rendue aussi témoignage. Je voudrais ajouter que, au-delà du C20 dont on a parlé à l'instant, pour préparer ce G20, il y a il y a en cours en octobre, là, un sommet qui s'appelle le W20, Women 20. Alors, sur le site officiel, la définition des missions de cet organisme, c'est de réunir des experts, des représentants, des dirigeants de différents domaines qui échangent en vue de partager, créer et accélérer et inspirer surtout des solutions destinées à favoriser un avenir plus équitable pour les femmes. Et n'oublions pas que nous sommes en Arabie Saoudite. Dans ce domaine, les autorités saoudiennes essayent d'engager des réformes en matière de droits des femmes. Alors on a bien sûr vu le droit de conduire, ça a été beaucoup diffusé et médiatisé, mais un peu moins peut-être celui d'obtenir un passeport qui devrait leur donner la possibilité de sortir du pays sans l'autorisation de leur tuteur masculin. Mais derrière ces initiatives et ces réformes extrêmement médiatisées, le pays continue de bafouer les droits humains les plus fondamentaux des femmes et de réduire au silence les personnes qui réclament l'égalité. Alors je voudrais en citer quelques-unes. Donc Loujain Al-Atloul, Nassima Al-Sada, Samar Badawi, un nom peut-être qui dit quelque chose à nos auditeurs, Nouf Abdulaziz et Maïla Al-Zahrani. Elles sont toujours, elles, derrière les barreaux. Elles ont été emprisonnées, elles ont été torturées, elles ont subi des sévices. Et elles y sont parce qu'elles ont simplement réclamé l'égalité. Donc par conséquent, ces participants au W20 doivent user de leur influence lors des réunions, publiquement ou en privé. Il y aura des parlementaires français, je pense. Pour appeler les autorités saoudiennes à libérer immédiatement et sans condition ces défenseurs des droits humains saoudiennes qui sont emprisonnés. Avec le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui est au pouvoir actuellement, cette répression exercée contre les militants et les militantes pacifiques en faveur du changement et des réformes s'est intensifiée. Le meurtre du journaliste saoudien, dont la presse s'est fait écho largement, Jamal Khashoggi, en 2018, a démontré que les dissidents saoudiens en exil pouvaient également être pris pour cible. La France déclare depuis plusieurs années faire de la protection des défenseurs des droits humains une des priorités de sa politique extérieure et de sa diplomatie. Forte du partenariat stratégique, elle entretient avec l'Arabie saoudite, à une occasion unique, d'agir en faveur des droits humains lors de ce G20. Je vous demande donc, Monsieur le Président, en tant que chef d'État d'un des 20 États membres du G20 et en tant que partenaire stratégique de l'Arabie saoudite, d'exiger de façon claire et forte la libération de tous les défenseurs des droits humains et la mise en œuvre de véritables réformes en faveur des droits humains dans le royaume d'Arabie saoudite. Veuillez agréer, Monsieur le Président, notre considération.
Tout à fait. Je ne fais qu'insister, il faut signer cette pétition en ligne, amnesty.fr, vous l'aurez sous les yeux immédiatement. Voilà.
Faire pression sur le président pour qu'on
faire pression sur le président pour qu'il agisse avec
quelque chose.
Toute la force, ses convictions.
Voilà. Le mois prochain.
Le mois prochain. C'est l'heure de la pause musicale, alors nous allons vous passer Juliette Gréco, Née quelque part.
On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent, pareil ou pas. Égaux en droit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas.
Juliette Gréco sur les ondes de Radio Albigès. Vous écoutez l'émission Les Chroniques Amnestiennes, diffusée le lundi à 14h, le mercredi à 8h du matin et samedi à 15h. On retrouve tout de suite dans nos studios Jean-Michel et Jean-Marie du groupe Amnesty International Albi.
Merci Arnaud.
Nous allons revenir après avoir été un peu loin dans le monde, en Arabie Saoudite et puis ailleurs. Nous allons revenir en France pour parler du dernier rapport qu'a publié Amnesty International. Donc, au cours des dernières années, donc, il y a eu des mouvements de protestation qui ont quand même été importants et nombreux sur tout le territoire. Du mouvement des Gilets jaunes aux manifestations qui appellent à une action face à l'urgence climatique en faveur de la justice sociale ou encore contre l'impunité policière et le racisme au lendemain de l'homicide de George Floyd aux États-Unis. Donc voilà, Jean-Michel, tu nous donnes un petit peu les...
Oui, je vais essayer de donner quelques détails sur cette enquête qui a été réalisée pendant 18 mois donc par Amnesty International. Enquête sur la réponse des autorités à ces mouvements sociaux Alors, ça a été recueilli, recoupé par des témoignages, d'une centaine de manifestants arrêtés, poursuivis, et également Amnesty a rencontré des autorités. Le constat est inquiétant. Depuis 2018, des milliers de personnes ont été verbalisées, interpellées, arrêtées et poursuivies en justice pour des activités pacifiques qui n'auraient pas dû être considérées comme des infractions. Parmi elles, des manifestants, parmi elles, mais aussi des journalistes ou observateurs des droits humains, ont notamment été pris pour cible. Des lois contraires au droit international ont été utilisées de manière massive et une nouvelle loi dite anti-casseurs a été promulguée.
Alors on constate aussi qu'il y a eu des milliers d'arrestations et des poursuites un peu arbitraires.
Tout à fait. Alors bon, les manifestants du mouvement des Gilets jaunes ont particulièrement été réprimés par les autorités françaises. Entre novembre 2018 et juillet 2019, 11 203 d'entre eux ont été placés en garde à vue. Plus de la moitié, soit 5 962 manifestants, ont été libérés sans poursuite. Alors on a vu apparaître lors de ces manifs la notion de délit d'outrage, qui est définie de manière vague comme tout écrit, toute image ou toute parole qui porte atteinte à la dignité ou au respect dû à une fonction publique, entre guillemets, et il est passible de peine allant jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. En 2019, 20 280 personnes ont été reconnues coupables d'outrage à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, y compris dans des contextes de manifestation et dans certains cas pour de simples slogans.
Alors, quelques exemples de situations au fur et à mesure dont tu nous rencontres un petit peu de ce rapport. Frédéric, un syndicaliste de Besançon, et que Amnesty donc a rencontré, a passé 24 heures en garde à vue. Il a été perquisitionné et poursuivi plusieurs fois ces deux dernières années en raison de ses activités pacifiques. Il a aussi reçu 5 amendes pour avoir participé à des manifestations que les autorités considéraient comme interdites.
Tout à fait. Alors, ces interdictions sont dans certains cas disproportionnées. Depuis mars 2019, plus d'un millier de personnes ont reçu des contraventions de ce type, alors qu'elles n'étaient pas toujours informées des interdictions, voire qu'elles ne manifestaient pas.
Alors pour Odile, il y a eu un jugement. Et alors ce jugement, où je n'ai pu me défendre, et cette interdiction de manifester m'ont vraiment touché. Donc si je ne la respecte pas, je risque la prison, et avec mes problèmes cardiaques et respiratoires, j'y risquerai ma vie.
Oui, parce qu'Odile est une... fait partie d'une association pour personnes handicapées à Toulouse et donc elle était particulièrement vulnérable. Alors d'ailleurs, je coupe un petit peu en disant que si vous allez lire ce rapport qui est disponible sur le site, il fait 64 pages, mais vous pouvez tourner les pages et chercher, vous avez beaucoup d'exemples qui sont donnés. Il y en a quelques-uns qui valent leur pesant cacahuète. Ouais. Donc on a eu également droit à des arrestations préventives injustifiées. Des centaines de personnes, dont des manifestants, ont été reconnus coupables de participation à un groupement en vue de la préparation de violences. Ça aussi, c'est quelque chose de gratiné. Cette infraction très vague permet aux autorités d'arrêter et de poursuivre en justice des personnes, non pour ce qu'elles ont fait, mais en raison de ce que les autorités pensent qu'elles pourraient faire. On est dans le... C'est incroyable. Le problème, elle se base sur des indices très discutables. Ainsi, des manifestants ont été arrêtés et poursuivis simplement pour avoir porté des lunettes de natation ou des masques pour se protéger du gaz lacrymogène et des tirs de LBD.
Alors un autre exemple, Sophie, c'est une femme qui a rejoint le mouvement des Gilets jaunes et elle indiquait à Amnesty qu'elle avait été arrêtée pour, entre guillemets, je cite, « participation à un groupement en vue de la préparation de violences ». Donc, mais ce motif d'arrestation, il est lié au fait qu'elle avait gonflé des ballons de broderuche sur les Champs-Élysées le 14 juillet.
Voilà, ça fait partie des exemples sidérants. Alors, il y a le problème de couvrir son visage par un masque, en manifestation. Alors, ce masque est devenu nécessaire à l'heure du Covid-19 et du gaz lacrymogène. Donc, on tombe dans l'incohérence complète actuellement. Alors, en réaction à la forte augmentation de l'utilisation de gaz lacrymogène, des tirs de LBD-40 et de grenades lacrymogènes par la police, les manifestants ont de plus en plus utilisé des masques, des casques et des lunettes de protection. En avril 2019, a été introduite une interdiction générale de dissimuler son visage pendant les manifestations sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros et d'une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement. Cette loi est contraire au droit international et n'a plus aucun sens dans le contexte du Covid-19 où il est obligatoire de porter un masque. Entre avril et octobre 2019, cette interdiction a donné lieu au placement en garde à vue de 210 personnes. En 2019, 41 manifestants ont été reconnus coupables de cette infraction.
Alors, Brice, qui est journaliste, lui, il était en train de filmer une manifestation des Gilets jaunes à Paris en avril 2019. Lorsqu'il a été arrêté, maintenu en garde à vue pendant 48 heures et inculpé pour violence, dissimulation de visage et préparation de violence. Je cite son propos. Je trouve absurde que le parquet ait requis une peine de 3 mois, sachant que je suis journaliste et qu'il n'y avait aucune preuve contre moi. Il a été acquitté par la suite.
Voilà. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que tout cela constitue une attaque sans précédent contre la liberté de réunion pacifique. Les autorités françaises ont aussi profité de la crise du Covid-19 pour restreindre un peu plus le droit de manifester, et ce, de façon disproportionnée. Les arrestations et les poursuites à répétition ont eu un effet négatif sur le droit à liberté de réunion pacifique en France. Un grand nombre de personnes que nous avons interrogées nous ont d'ailleurs confié y réfléchir à 2 fois avant d'aller manifester désormais. Utiliser la loi de manière abusive contre les personnes qui prennent part à des manifestations n'est pas aussi visible que les violences policières. Mais c'est une autre forme de violence avec des effets tout aussi dévastateurs pour les personnes et le droit de manifester. Les autorités françaises doivent cesser de transformer les manifestants en délinquants et modifier toutes les lois qui portent atteinte au droit de se réunir pacifiquement. Alors en conclusion, je dirais qu'il faut défendre le droit de manifester en France. On peut dire que sous la présidence d'Emmanuel Macron, le droit de manifester a été attaqué comme jamais dans l'histoire récente. Et il s'était pourtant engagé pendant sa campagne à le protéger. Voilà. Alors, vous allez trouver une pétition en ligne qui lui rappelle ses engagements. Donc, allez-y, vous la verrez, elle est en première page. Donc, allons en masse signer cette pétition et rappelons-lui ses engagements. Alors, je conclurai en disant qu'il y a un excellent film qui sort, qui s'appelle « Un pays qui se tient sage », qui est tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Je vais vous citer ce que dit David Dufresne, le réalisateur. « Tous les pays du monde sont confrontés aux violences policières. Pour les démocraties, c'est un enjeu devenu crucial à leur propre survie. Le film questionne cette définition de Max Weber, ouvrez les guillemets. L'État revendique le monopole de la violence physique légitime, fermez les guillemets. Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que la violence légitime? Qui lui dispute son monopole et qui en tient le récit ?» Donc, essayez d'aller voir ce film. Alors, il est programmé le 5 novembre avec débat à la salle Arcée, mais à 20h30, donc à la salle Arcée. Donc, il y aura un débat et c'est Amnesty International nous-mêmes qui l'avons programmé. Il est programmé également le 9 novembre à Gaillac à 20h, bien, avec présence d'un avocat d'ailleurs pour animer le débat. Nous faisons partie des associations qui auront avancé, ont patronné cette projection. Bon, le seul problème aujourd'hui, c'est qu'à l'heure où nous parlons, le couvre-feu vient d'être instauré. Et vérifier, j'espère que ces films pourront être maintenus parce qu'ils sont au-delà de 20h, il y a des programmations. Bon, et puis regardez les programmations, ils vont certainement glisser avant la période de 21h pour que vous puissiez le voir. Mais allez-y parce que franchement, ce film contient tous les éléments que l'on vient de vous donner d'une manière un peu plus théorique, si vous voulez. Voilà, qui sont synthétiques. Donc, on vous attend nombreux à la projection de ce film à Gaillac et à Albi. Alors Jean-Marie, tu veux nous parler un petit peu de l'Algérie et de ce journaliste Khaled Drareni, dont on a entendu parler en France, hein, puisqu'il est très connu. Tout le monde sait que sa peine a été ramenée récemment de 3 ans à 2 ans. Hein, ça, voilà. Donc, je te laisse la parole, sachant qu'il y a bien sûr une pétition au bout.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un nouvel exemple de la répression qui sévit en Algérie, principalement en direction des médias et des journalistes, mais pas uniquement. Donc, ce journaliste algérien vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme. On considère que c'est un verdict tout à fait honteux. Le 15 septembre dernier, une juridiction d'appel, qui a siégé à Alger, a condamné donc ce journaliste pour avoir couvert les manifestations du mouvement de protestation du Hirak. Donc, nous demandons la liberté pour Khaled Drareni. Lors de ce même simulacre de procès, Samir Benlarbi et Slimane Amitouche ont étaient tous deux aussi condamnés à une peine d'un an de prison, dont 8 mois avec sursis. Donc, comme ils avaient déjà été emprisonnés pendant au moins 4 mois, ces deux militants ont été remis en liberté puisqu'ils avaient déjà purgé leur peine. Et le 10 août 2020, le journaliste, là, donc Khaled Drahani, il avait été condamné à 3 ans en première instance. Donc il a été, comme tu l'as dit, ramené à 2 ans. Bon. On aurait aimé qu'il soit... qu'il aboutisse à un verdict, à un non-lieu, quoi. Mais bon. La peine d'emprisonnement qui est prononcée ce jour contre le journaliste s'apparente à une parodie de justice dans un pays censé se transformer et connaître un changement politique dans le sillage des manifestations de masse qui ont lieu, qui continuent d'avoir lieu.
Qui continuent.
Ces lourdes sanctions témoignent de la répression plus large des libertés sur le territoire et viennent confirmer une pratique inquiétante consistant à engager des poursuites contre les journalistes et les militants qui ont réclamé davantage de démocratie et le respect de l'état de droit en Algérie. Donc les autorités algériennes doivent relâcher immédiatement et sans condition Khaled Drahani, et il faut donc aller signer la pétition que vous allez trouver facilement sur amnesty.fr.
J'insiste en disant que Khaled Drahani fera partie des 10 cas, des 10 jours consignés. Ah oui. Donc vous voyez, une portée là vraiment très importante. On en parlera un petit peu à la fin. Parce que là aussi, on a des doutes avec le Covid actuel. Mais enfin bon, voilà. Donc, Khaled Drahani, c'est quelqu'un de très connu, hein, qui a réalisé des interviews à haut niveau.
De renom, oui.
Ouais, tout à fait. Voilà, donc, allez en ligne, signez la pétition. Il faut qu'on le sorte de là.
Vous entendez parler actuellement dans les séquences radio ou télévision du conflit entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. Donc nous, notre préoccupation sont effectivement comment sont traités dans ce cadre-là, dans ce conflit, les civils. Et en particulier, des images qui ont été diffusées attestent qu'il y a eu l'utilisation de bombes à sous-munitions.
Tout à fait. Et ces armes sont pourtant interdites par le droit international et humanitaire. Alors, le 27 septembre, des affrontements violents ont éclaté opposant l'Azerbaïdjan à l'Arménie et aux forces soutenues par l'Arménie dans la région séparatiste du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan. Il faut remonter à 1993, à l'éclatement de l'URSS, pour comprendre ce qui s'est passé là-bas. Okay. Et il y a une enclave arménienne qui s'est constituée, j'allais dire, autonome, indépendante et qui s'est reliée à ce moment-là à l'Arménie. Voilà. Donc, ces derniers jours, les deux camps impliqués dans le conflit ont échangé tirs d'artillerie et d'obus. Le conflit continue de s'intensifier au détriment des populations civiles qui sont prises au piège. Et là, c'est bien ce que nous redoutions. Au cours du week-end dernier, des images attestant de l'utilisation des bombes à sous-munitions dans la ville de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, ont été diffusées par les autorités de la région. Elles ont également signalé un nombre non déterminé de victimes civiles après le nouveau bombardement. Alors, on rappelle que cette l'utilisation de ces bombes à sous-munitions est interdite. Nos experts d'Amnesty en matière de réaction aux crises ont pu retracer le lieu où ont été prises ces images, dans un quartier résidentiel de Stepanakert, et ont identifié des bombes à sous-munitions, alors même le type M095 des PICM. Ces armes sont fabriquées en Israël et auraient été tirées par les forces azerbaïdjanaises. Le constat est clair là. L'utilisation de bombes à sous-munitions est interdite en toutes circonstances par le droit international humanitaire. Leur usage contre des zones civiles est particulièrement dangereux car ce sont des armes non discriminantes par nature et leur déploiement dans des quartiers d'habitation est totalement déplacé et inacceptable. Alors que les combats montent d'un cran, la population civile, est délibérément ciblée. Ce sont des armes dévastatrices. Ce sont des armes qui par nature frappent sans discrimination, infligent des souffrances à la population civile pendant des années après leur utilisation. Aussi font-elles l'objet d'une interdiction internationale au terme d'un traité soutenu par plus de 100 États. Ces armes éparpillent des centaines de mini-bombes ou sous-munitions sur un large secteur. On estime qu'entre 5 et 20% de ces mini-bombes n'explosent pas. Elles restent alors sur place, représentant une menace pour les civils, à l'instar des mines terrestres antipersonnelles. L'utilisation de ces bombes viole l'interdiction des attaques sans discrimination, étant donné l'étendue importante couverte par les nombreuses petites bombes éparpillées et le danger qui en résulte pour tous ceux qui entrent en contact avec les munitions non explosées. On va suivre cette affaire de près. terminer cette émission, deux bonnes nouvelles quand même. Jean-Marie, tu nous parles de la Russie peut-être ?
Alors, en Russie, c'est le 6 juillet 2020. Une journaliste, alors Svetlana Prokofiev, elle a été reconnue coupable de justification du terrorisme et condamnée à une amende de 500 000 roubles. Eh bien, le tribunal a rejeté la demande du procureur de la condamner à une peine de 6 ans d'emprisonnement, rien que ça, et de lui interdire tout travail de journaliste pendant une période supplémentaire de 4 ans. Elle n'a commis aucun crime et a pénalisé uniquement pour avoir critiqué le gouvernement. Donc les acquittements dans ce type d'affaires est extrêmement rare aux États-Unis, en Russie, pardon, et le fait que cette journaliste ait été condamnée à une peine non privative de liberté est largement interprété comme un résultat possible de l'attention et des pressions publiques exercées sur les autorités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Donc il faut continuer, Amnesty va continuer d'ailleurs, à surveiller les audiences en appel et l'évolution de cette affaire, pour l'instant, qui apparaît très 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 positive.
Oui, c'est assez exceptionnel de voir ça en Russie, donc je vais le signaler. Oui. Ben moi, je vais parler du Niger. Mm-hmm. Trois membres de la société civile ont été libérés au Niger. Moudi Moussa est journaliste et syndicaliste. Halidou Mounkaïla Est, leader du syndicat d'enseignants Sinaseb. Et Maïkoul Zodi est le coordinateur national du mouvement mondial Tournons la page. Depuis plus de six mois, ils ont été arrêtés entre le 15 et le 17 mars 2020, ces trois défenseurs des droits humains étaient emprisonnés au Niger pour avoir simplement participé à des manifestations pacifiques demandant l'ouverture d'une enquête sur les allégations de détournement de fonds par le ministère de la Défense. Suite aux pressions de la société civile internationale, ils ont été libérés. Nous exhortons cependant les autorités à abandonner définitivement toutes les charges contre eux et à cesser le harcèlement et les détentions arbitraires des voix critiques. Cette émission touche à sa fin. À l'heure où nous enregistrons, nous apprenons la mise en place d'un couvre-feu sur le Tarn pour 4 à 6 semaines. Dans ces conditions, nous ne pouvons confirmer la projection du film « Un pays qui se tient sage » à Albi le 5-11 et à Gaillac le 9-11, en tout cas pas à 20h et à 20h30. Tenez-vous au courant sur un changement possible d'heure de projection et allez-y. De la même façon, vous savez que tous les ans, au mois de décembre, nous intervenons avec l'opération 10 jours pour signer. Alors, elle se présente bien entendu dans des conditions difficiles. Elle est programmée entre le 4 et le 13 décembre, c'est-à-dire autour de la date de déclaration des droits humains votée à l'ONU. Alors, nous ferons le point, bien évidemment, sur cette opération fin novembre dans notre prochaine émission. Tout cela ne facilite pas les actions militantes. Eh ben, il nous reste au moins travailler en ligne déjà. Et puis derrière, quand même, en dehors du couvre-feu, il reste la journée. Mais déjà, chers auditeurs, allez en ligne, allez signer des pétitions. Tenez-vous au courant des situations qui évoluent. Il y a beaucoup à faire. La situation s'est quand même pas mal dégradée depuis quelques temps. Voilà. Alors les droits humains doivent progresser. Il faut continuer à agir avec Amnesty International et d'autres pour faire pression partout dans le monde sur les autorités pour que cessent les atteintes aux droits et libertés. Vous pouvez intervenir sur les situations que nous venons de vous présenter et bien d'autres en signant nos pétitions en ligne sur le site amnesty.fr. Si vous souhaitez agir avec le groupe d'Albi, envoyez-nous un courriel sur notre nouvelle messagerie albi@amnestyfrance.fr. Nous prendrons alors contact avec vous. Vous pouvez suivre nos actions et activités locales sur notre blog. Vous le trouverez tout de suite sur un moteur de recherche. Merci de nous avoir écoutés et de nous faire part de vos commentaires et suggestions à ces mêmes adresses. Et n'oubliez pas, vos signatures ont du pouvoir. Du pouvoir.